Bonjour, cet été, double ration dont va déguster. On se retrouve tous les samedis de l'été à 11h pour vous servir les morceaux choisis de l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de percer les secrets de l'aceto balsamico, le vinaigre balsamique. Buon appetito sur France Inter.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
On a fait l'apéritif. J'ai mis le vinaigre dans le verre avec le Cas del Bosco. On a fait l'écu royal au vinaigre balsamique. Incroyable. Avec le parmigiano, c'est incroyable. Le vinaigre, c'est ça. Tu les dois connaître, tu les dois admirer, tu dois faire l'amour avec le produit, caresser, comprendre. So, c'est ça pourquoi j'ai dit dans mon vin, il y a le vinaigre balsamique.
Massimo Bottura, le célèbre chef 3 étoiles de Modène en Italie, qui déclarait donc, il y a quelques jours au micro dont on va déguster, « Le vinaigre balsamique coule dans mes veines ». C'est vraiment le Roberto Benigni des casseroles, ce Massimo Bottura, amoureux évidemment d'un produit qui l'a nourri depuis tout petit, le vinaigre balsamique. Buongiorno a tutti, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Il est devenu un incontournable de nos placards, ce vinaigre balsamique, en vinaigrette sur la fameuse tomate mozzarella, en graffiti très artistique sur les desserts de certaines brasseries et en élixir précieux que l'on verse au compte-gouttes sur un morceau de parmesan par exemple. Oui, car dans le cas du balsamique, il y a le traditionnel protégé par un cahier des charges très strict et l'industriel où tout ou presque est permis, ce qui soulève d'ailleurs l'indignation de certains artisans italiens en ce moment. On vous dit tout sur l'or noir d'Emilie Romagne avec notre experte italienne Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Comment ça va ?
Tutto bene, grazie.
Je vous ai accompagné, Alessandra, dans le nord de l'Italie il y a quelques jours, entre Bologne, Modène, Reggio Emilia, pour comprendre les secrets de l'aceto balsamico, un élixir auquel vous consacrez un petit livre aux éditions de l'Épure. Il est couleur vinaigre balsamique, c'est-à-dire brun foncé. Vous allez nous expliquer quelques-unes aussi de vos recettes et de vos tours de magie. Je crois qu'on peut vraiment parler de tours de magie avec le vinaigre balsamique dans un instant. Dans les fauteuils des chroniqueurs, oui, j'y suis. Il y a Esterella Paiani et Domenico Utini. Buongiorno, les amis.
Bonjour.
Buongiorno.
Ça va, Esterella ?
Ça va à fond.
Alors ?
Ben moi, le vinaigre, je le bois. Je parle pas de piquette, hein, pour une fois. Le vinaigre, en effet, il nous en fait boire de toutes les couleurs.
Ouais, des boissons à base de vinaigre, aussi étonnant soit-il. Dominique !
Oui, et ben moi je vais vous inviter à redécouvrir un des vins les plus vendus au monde, le Lambrusco,
ouais,
qui entretient une vraie proximité géographique avec le vinaigre dont on va parler aujourd'hui.
Qui est déjà en train de faire exploser ses bulles dans nos verres, le Lambrusco. Dominique Hutin fait le tour de la question dans un instant. Interagissez en direct dans l'émission via l'appli de France Inter ou sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com. Retrouvez nos infos, nos recettes, le podcast de l'émission sur franceinter.fr à la page on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant le vinaigre balsamique, on attaque avec un plat très français. L'œuf maillot, oui, car il y a du neuf dans l'œuf maillot. Lundi dernier se tenait, figurez-vous, le championnat du monde de l'œuf mayonnaise organisé par l'ASOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. C'était un événement très sérieux qui se déroulait dans la brasserie historique Le Galopin. On est derrière le palais Brognard à Paris pour la deuxième année consécutive. J'avais l'honneur de présider le jury de ce championnat du monde, composé notamment du chef 3 étoiles Yannick Aleno, du président de l'ASOM, cette fameuse association de sauvegarde, Sébastien Mayol. Oui, avec un L à la fin, hein. C'est pas Sébastien Maillot, même si on le surnomme comme ça, évidemment. Du chroniqueur vin Guilherme de Serval, du patron du guide Lebet Pierre-Yves Chupin, du grand gourmet Vincent Bruneau. Nous avons départagé à l'aveugle et attention, sous le contrôle d'une huissière de justice, pas de triche possible, 11 versions d'œufs maillot signées par des candidats de très haut niveau, parmi lesquels des cuisiniers de bistrot, des chefs étoilés, le niveau était assez relevé. Et l'œuf maillot qui a remporté l'édition 2019, eh bien figurez-vous qu'il a atterri, comme par miracle, sur le plateau dont on va déguster. Et son chef, c'est Clément Chicard. Bonjour.
Bonjour.
Alors Clément, vous avez 31 ans, vous êtes le chef de...
Du Bouillon Pigalle.
Voilà, la brasserie populaire de Pierre et Guillaume Moussier, Bouillon Pigalle, sur le boulevard de Clichy, dans le 18e arrondissement. Une brasserie très populaire à prix très accessible, ouvert 7 jours sur 7. Vous servez combien de maillots au bouillon Pigalle par jour?
Bah maintenant on en sert, là le record est passé à 380 par jour.
Oh, 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 parce
380 assiettes, ouais.
Avant votre titre de champion du monde, c'était combien par jour?
On était sur 180, sur les samedis qui sont les plus grosses journées, samedi dimanche, on était plutôt sur les 200, ouais.
Bon, bah,
bon, c'était déjà une belle vente, mais là ça a explosé, ouais.
Félicitations.
Merci,
vous avez
beaucoup.
Quand même, il faut le dire, coiffé au poteau, des versions stupéfiantes de maillots, des propositions plus sophistiquées, architecturées, complexes les unes que les autres. Et vous, vous avez débarqué avec finalement ce qui ressemble à l'œuf maillot que vous servez au bouillon Pigalle pour un prix très accessible de
1,90€.
1,90€, c'est quand même une belle performance, l'œuf maillot à Paris. On parle de, on est dans des quartiers maintenant qui sont des quartiers chers, etc., comme Pigalle. Et vous avez accompli cette performance-là. On ne savait pas le prix, évidemment, puisqu'on a dégusté votre œuf mayonnaise à l'aveugle.
Ouais.
Quel est son secret?
Bah, je pense que j'ai une bonne qualité d'œuf. Une belle moutarde. Je mets du vinaigre de Xérès dedans.
Ah.
Et de l'huile d'arachide.
Qui est-ce qui veut le goûter, Dominique Hutin?
Oui, je veux bien me sacrifier.
J'ai entendu arachide. Et ça, c'est important. Vous utilisez cette huile pour monter votre mayonnaise qui a une texture à la fois souple, mais quand même
nappante,
assez consistante.
Ouais, elle est plutôt nappante même.
Et ça, ça marche mieux
et
avec l'huile d'arachide.
Ouais. Moi, c'est mon grand-père qui faisait comme ça. Et du coup, j'aime beaucoup cette mayo. Enfin, je trouve qu'elle a le goût différent un petit peu.
Oui.
Et elle est vraiment nappante du coup, parce qu'elle se sert moins, en fait, je trouve, avec l'huile d'arachide.
Et donc ça marche bien. Alors, ouais. Dominique,
l'ensemble est très ferme, je peux le dire. C'est très très ferme. J'ai eu du mal à m'en sortir honorablement, pour dire les choses, j'en ai partout.
Voilà. Vous voulez une petite serviette?
Sur un petit lit de feuilles d'épinards. Il faut préciser aussi une chose, c'est que cet œuf n'est pas trop cuit. Souvent le défaut de l'œuf mayonnaise, c'est quand il est au-delà de 10 minutes de cuisson, le jaune devient un peu sableux en bouche, ça devient un peu asséchant. Le blanc est un peu... Oui, et de couleur grise.
Ouais.
Le blanc est un peu caoutchouteux, alors que là, c'est tout en souplesse.
Ouais. Il est assez fondant, ouais, même.
Et la mayonnaise, très onctueuse. En fait, il y a un petit tour de poivre, je pense, sur le dessus, qui donne un peu de peps et qui prolonge le goût de la mayonnaise en bouche.
Donc,
j'y replonge.
Ça vous plaît?
Oui, il y a une douille d'un kilo de mayonnaise à côté de moi.
Ouais, parce qu'il va quand même en dresser quelques-uns pour qu'on passe l'émission tranquillement.
Bien sûr,
hein. Et Alessandra Pierini, vous êtes membre de l'ASOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise.
Ah oui, j'ai eu la chance de goûter.
Et vous l'avez goûté?
Alors, ah oui, j'ai eu la chance lundi de le goûter. J'adore. Déjà, c'est un plat, une recette que j'admire et j'essaye de soutenir. Mais celui-là, il est particulièrement bon, c'est vrai. Faut
merci
le dire.
Beaucoup. Vous êtes assailli par les médias depuis lundi soir?
Ouais, c'est vrai. Ça n'arrête pas.
Y compris, c'était étonnant. Il y avait la télé japonaise qui s'intéresse à vous. Vous avez eu des interviews quasiment dans le monde entier. Car l'œuf mayonnaise est évidemment un plat français très connu à l'étranger. L'œuf mayonnaise de Clément Chicard, le chef du bouillon Pigalle, champion du monde 2019. Merci d'être venu nous le dresser quand même.
Avec plaisir, franchement, c'est très sympa.
Et vous allez continuer à en faire toujours autant?
Bah oui, c'est le plat phare. De toute façon, c'est l'entrée phare du bouillon, on en fera toujours.
Faites-nous une promesse.
Je vous promets de continuer à faire de l'œuf maillot.
Mais une autre promesse, ne pas augmenter son prix.
Ah bah non, ça, on a gardé le même prix, on le gardera toujours, je pense.
Vous êtes bien sûr?
Sûr et certain, et puis de toute façon on achète de plus en plus, donc les prix resteront stables.
Très bien, et bah, c'est une très bonne nouvelle. Vous pouvez aller déguster cet œuf mayonnaise champion du monde 2019 quand même, au Bouillon Pigalle. Un grand merci Clément Chicard d'être venu jusqu'à nous en direct en ce dimanche. Merci beaucoup. Et la recette sur franceinter.fr, à la page On va déguster. L'émission est réalisée par Laurent Thomas avec Antoine Teboul, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre page internet. Le vinaigre balsamique dans un instant, juste après un classique italien choisi par Giubacca.
C'est 24.000 baci, revisité par Bobo Rondelli et l'orchestrino.
Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. We'll be right back.
le bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, felici corrono le ore.
Allora, sono Andrea Bezzecchi della Cetaia San Giacomo e qua siamo davanti alle nostre vigne.
Je produis du raisin dans la campagne de Reggio Emilia, exactement à Novellara. C'est le raisin que j'utilise pour produire le vinaigre balsamique.
E ci sono tre tipi di varietà d'uva.
Et nous sommes juste en présence de deux variétés différentes. Une qui s'appelle Ancellotta, qui est vraiment caractéristique de la région, et l'autre qui est du Lambrusco, dans laquelle il y a aussi deux sous-variétés de raisin.
Et l'Ancellotta, appunto, e invece
donc
una,
le cépage Ancellotta, c'est un cépage très important dans la production du vinaigre balsamique dans la région, puisque ça donne énormément de couleurs. Il a une pulpe très très chargée en rouge, mais ce cépage a un tout petit rendement, mais surtout dans cet endroit où il est cultivé par Andrea.
La coltivazione e l'impianto si chiama GDC.
Cette vigne, elle a la caractéristique d'être cultivée assez en hauteur. C'est comme un arbre avec un tronc très très haut, avec les branches qui partent des deux côtés, à droite et à gauche. Ça s'appelle en italien un GDC. C'est une appellation un petit peu particulière de la région et de cette façon de cultiver le raisin. Et c'est un très joli paysage, d'ailleurs.
Andrea Bezzecchi, un des meilleurs artisans du vinaigre balsamique en Émilie-Romagne. Alors, quand même, situons déjà cette région, qui n'est pas forcément la plus touristique pour les Français, mais qui est une région du nord de l'Italie absolument extraordinaire, avec des paysages de toute beauté, Alessandra.
C'est ça, c'est une des plus vastes régions italiennes, d'ailleurs, qui est située entre la Lombardie et la Toscane. Nous avons différentes provinces, donc nous étions vraiment dans le cœur, qui est celui de Modena et de Reggio Emilia, pas très loin de Parme. C'est une région où nous avons des produits gastronomiques assez exceptionnels, d'ailleurs exporté, connu dans le monde entier. On peut parler du prosciutto di Parma, le jambon de Parme, le parmigiano reggiano, parmesan, donc qui est vraiment le voisin du vinaigre balsamique, mortadella di Bologna, tortellini, culatello. Donc je pense que les personnes connaissent plus les produits, en fait, que la région en elle-même.
Et on va d'ailleurs voir dans un instant que quand le vinaigre balsamique se marie au parmigiano reggiano, en général, c'est grand amour.
Ça fait un beau mariage.
Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors là, on était très exactement au nord de Reggio Emilia. On est à équidistance entre Parme et Modène. Et nous avons rendu visite ensemble, il y a quelques jours, à Andrea Bezzecchi, qui a donc 3,5 hectares de vignes cultivées en agriculture biologique, c'est important. Il transforme donc lui-même son propre moût en vinaigre balsamique dans son Cetaia San Giacomo, qui est vraiment situé à quelques kilomètres seulement de ses vignes. Qu'est-ce qui va se passer au moment des vendanges, en septembre prochain, avec ce moût récolté dans ses propres vignes?
Donc déjà, les vendanges se passent entre septembre, octobre, novembre. Le raisin, il est ramassé, donc il est enlevé de sa grappe et donc éraflé. Le raisin est pressé, on en récupère juste le jus, donc il est bien filtré. Ce jus est cuit dans des gros chaudrons en inox. Avant, c'était des chaudrons en cuivre, mais maintenant, la loi interdit que ça soit donc fait dans du cuivre, parce que le fait que ce jus refroidisse à l'intérieur pourrait se passer des métaux lourds, donc on évite tout ça. On garde des chaudrons donc en inox avec une contenance d'environ 300 litres. Ce sont des grosses marmites d'environ un mètre de diamètre.
C'est vraiment des marmites, hein, au sens propre du terme, avec d'ailleurs du gaz dessous.
Du gaz dessous.
Feu qui...
Trois bras qui envoient donc de la flamme directe, et c'est donc de la vraie cuisson directe, comme on ferait nous dans une plus petite quantité à la maison.
Combien de temps dure cette cuisson?
La cuisson dure 12 heures. Toutes ces opérations, ça prend environ une journée, mais donc une cuisson de 12 heures à 95 degrés. Il faut qu'en fait le raisin, qu'au moment de la récolte, il faut qu'il soit vraiment au maximum de sa maturation. Il a environ 18% de sucre à l'intérieur de sa pulpe. Une fois cuit, il est réduit d'environ 30%, donc il nous reste 70% de matière première et on a une concentration de sucre environ de 24-26 degrés.
C'est ça, donc ça veut dire que le mosto cotto, le mou cuit, a perdu 30% de sa matière, c'est assez considérable, il reste 70%, donc on imagine quelque chose d'assez concentré. Qu'est-ce qui se passe avec ce mosto cotto, ce mou cuit justement?
Ah, donc ça, ces opérations se passent sous un porche, à l'air libre. Ce qui est très important, c'est que cette cuisson est vraiment en contact avec l'air. Il faut qu'il se passe une oxydation qui permet aux raisins donc, de changer de couleur, parce que c'est un mélange, donc on a vu, de cépages autochtones de Trebbiano, raisins blancs, et d'autres raisins rouges. Il faut qu'il y ait une oxydation pour que le mou cuit devienne vraiment d'une couleur marron foncé.
C'est ça.
C'est ce qui détermine qu'il y a eu une cuisson. Ensuite, de là, on le passe dans chez Acetaia San Giacomo. C'était une ancienne étable voûtée magnifique. Il y a des fûts en inox qui contiennent environ 1000 litres. Dans ces fûts, donc, on met le mou cuit une fois bien refroidi et on le laisse un mois pour qu'il se passe la fermentation alcoolique, donc que le sucre deviennent donc alcool.
Il y a d'abord une fermentation alcoolique.
Comme pour le vin.
Et ensuite, à cette fermentation alcoolique, succède une fermentation acétique. La fameuse piqûre acétique.
Qui se passe donc, par contre, ici, il faut quand même un an pour que ça se passe. Et c'est ensuite dans des barriques en bois, qui sont toujours dans la même pièce, qui ont une contenance d'environ une centaine de litres. Et tout ça peut se passer, en fait, parce qu'il y a un contact direct avec l'air, il y a une oxygénation, il y a une oxydation qui est prévue grâce à une trappe qu'il y a au-dessus de la barrique. C'est une ouverture environ de 20 cm sur 15 cm qui est juste recouverte d'un petit linge en lin qui permet donc de passer l'air, mais empêche donc que les poussières ou les insectes s'introduisent. Et donc là, la fermentation arrive tout doucement. Et ça en témoigne, donc un voile qui est comme une couverture pleine de bactéries qui donne une couleur comme une moisissure marron, verdâtre qui est juste dessus, c'est que les bactéries elles sont bien là et qu'elles agissent et qu'elles travaillent.
Là on est dans le cas du vinaigre balsamique traditionnel de Reggio Emilia et on va voir qu'il y a un autre vinaigre balsamique traditionnel protégé, c'est celui de Modène protégé par une denominazione di origine protetta, et ça c'est important. On va voir dans le vinaigre balsamique ces étapes, ça se passe pas tout le temps comme ça. C'est toute la difficulté de reconnaître un bon vinaigre. Mais dans le cas précis de ce vinaigre entièrement artisanal, c'est certainement le temps qui est l'un des ingrédients les plus importants. Et on va le vérifier dans l'ultime étape de fabrication de ce vinaigre balsamique chez Andrea Bezzecchi. C'est son élevage. Cette étape cruciale se déroule sous les toits de la vinaigrerie. C'est important. C'est toujours sous les toits que ça se passe et pas dans la cave. Parce que la pièce est soumise à une ventilation naturelle, à des amplitudes thermiques entre l'hiver et l'été, des différences de température qui sont très importantes pour l'affinage de ce vinaigre balsamique. On suit Andrea Bezzecchi dans son grenier.
Ah, alors là, on entre dans le temple.
Ah, nous sommes dans la acetaia.
C'est la vinaigrerie.
La vinaigrerie, c'est la part la plus importante de toute la production. L'alignement s'appelle la batterie.
Donc, il faut imaginer des fûts de toutes les tailles. Le plus grand fût, là, 45 litres. Jusqu'à 10 litres.
Et chaque fût est produit avec une particulière bois.
Le grand, c'est...
C'est châtaignier.
Le deuxième.
Peut-être cerisier, genévrier, acacia, etc.
Pourquoi des bois différents?
Parce que chaque année, il faut transvaser les produits de la plus grande à la plus petite. Et un petit peu de les produits, pas tout. 20% ou 30% des produits qu'il y a dans la grande, il va entre les petits et encore. Et ça veut dire que les produits plus petits, il y a tous les aromas et les parfums de les différents bois.
Le vinaigre balsamique est en fait un assemblage de différents vinaigres de différents âges provenant de fûts de différents bois.
Tout à fait. C'est tout ce mélange qui fait la complexité en fait du produit.
ma bisogna pensare che il prodotto non nasceva per finalità produttive.
C'est que ces dernières années qu'il est devenu presque un produit commercial. Mais dans le temps, c'était vraiment le vinaigre qui restait sous les toits des maisons de famille, qu'on venait rajeunir à chaque naissance de chaque enfant, et ça se gardait comme ça, on n'avait aucune notion d'année.
À l'origine, quelle était la vocation du vinaigre balsamique que l'on fabriquait dans les familles ? C'était un condiment qui apportait du goût à la cuisine ?
L'origine del balsamico è proprio legata al nome.
Donc le vinaigre balsamique qu'on utilise aujourd'hui, c'était pas la même utilisation qu'on avait il y a bien des années. Parce qu'en fait, il est né pour être quelque chose qu'il fallait garder très longtemps. C'était en fait un élixir qui s'appréciait juste à la cuillère. Il n'y avait pas cette notion de cuisine, en fait, ou d'être cuisiné. Et donc, c'était surtout fabriqué dans les monastères. Donc, c'était là qu'on avait de l'argent, de la bonne matière première et du temps, surtout pour faire de bonnes choses. C'était quelque chose qui est balsamique, donc qui se bonifie et qui fait du bien, en fait, qui soulage quelque part. Et même entre les mets, c'était utilisé presque comme un trou normand pour faire passer les plats d'une meilleure façon. C'était un baume avec un usage médicinal très bon, délicieux, et que les familles ici dans la région avaient. Donc ce n'était pas quelque chose qui était répandu dans d'autres endroits en Italie, surtout.
Comment on explique le fait que la texture du vinaigre balsamique, plus il vieillit, plus il est sirupeux, c'est l'évaporation, c'est le fait que le vinaigre a perdu son humidité ?
Pour les vinaigres balsamiques traditionnels, il y a, oui, une concentration, une évaporation de l'eau, mais il y a aussi la formation de les antioxydants qui donnent la viscosité.
Ciliegia.
Alors là, les bois ont vraiment des parfums différents. Hein.
Ginepro.
Et ginepro, però sono molto maturi.
Nous venons de sentir les bouchons en fait, des barriques en cerisier et en ginevrier. Déjà, les notes aromatiques sont incroyables. On dirait vraiment une huile essentielle. Et donc là, elles sont situées dans le milieu de la batterie de barriques, entre la troisième et la quatrième barrique, pour donner vraiment les arômes plus marqués.
La véritable alchimie de l'authentique vinaigre balsamique. On était chez l'Acetaia. San Giacomo,
on va goûter
tout à l'heure ces produits et on va comprendre la richesse aromatique et organoleptique du vinaigre balsamique. Alessandra,
oui.
C'est un maquis inextricable cette histoire de
Absolument.
Vinaigre balsamique en Italie. Il y a deux DOP qui sont les équivalents de nos appellations d'origine protégée, hein. Il y a une équivalence européenne.
Absolument.
Et il y a également une IGP, indication géographique protégée, Indicazione Geografica Protetta, et ça... ça veut dire que y a des vinaigres balsamiques avec des écarts qualitatifs très importants.
Absolument. Donc ceux d'appellation d'origine protégée, ce sont ceux de Modena et ceux de Reggio Emilia. C'est vraiment le véritable vinaigre balsamique traditionnel. Il n'y en a pas d'autre.
Avec
du moût de raisin, sans aucune autre adjonction de produits, juste du temps, du vieillissement, avec ce processus très long, qui peuvent être commercialisés sous cette appellation uniquement à partir d'un minimum de 12 ans d'âge, 18 ans d'âge juste pour le consortium de Reggio Emilia, et le dernier, le sublime, à partir de 25 ans d'âge. Donc on peut s'imaginer que c'est une production toute petite.
Eh bien, j'ai les chiffres, justement. Le traditionnel de Reggio Emilia, c'est, figurez-vous, 1500 litres par an. Et pas une goutte de plus.
Eh oui.
Le traditionnel de Modena, c'est 8000 litres par an. Vous voulez une idée de la production de vinaigre IGP ? 98 millions de litres. Voilà.
C'est incroyable.
C'est l'océan du vinaigre balsamique.
Large.
Et
oui.
On va voir dans un instant, parce que c'est important, évidemment, tout le monde n'a pas les moyens d'acquérir un vinaigre balsamique traditionnel. On va voir que c'est un élixir très cher. On va d'ailleurs le goûter, mais il est possible de trouver, évidemment, des versions de vinaigre balsamique de Modène IGP. Donc, la version un peu inférieure, mais tout à fait intéressant
Honnête,
au niveau
bien sûr.
Au niveau
c'est
aromatique.
L'équivalent des anciens vins de pays, quoi, au final, si on fait un rapport entre vin et...
Exactement.
Et vinaigre, oui. Dans l'IGP, malheureusement, du vinaigre balsamique, l'IGP n'a pas vraiment raison, dans ce cas-là, de protéger beaucoup le produit. Malheureusement, il y a une fourchette, une amplitude trop large, une marge de manœuvre dans laquelle les industriels se régalent. Parce
voilà.
que c'est un peu flou, c'est un peu équivoque.
Il y a,
à boire et à manger.
S'il fallait repérer le bon vinaigre balsamique IGP, qui n'est pas le vinaigre balsamique qui peut carrément déraper de façon industrielle avec avec des agents de texture, des colorants,
oui, du caramel,
du sucre ajouté. Parfois, il n'y a même pas de moût de raisin, il y a juste du vinaigre.
Oui, déjà, l'IGP, c'est du moût de raisin et du vinaigre de vin. Donc, il n'y a pas de fermentation dans ce produit, il y a juste un mélange de ces deux ingrédients. Donc, c'est pour ça aussi la très grande différence qu'il y a le traditionnel. Et donc, pour le choisir, il faut moins voir qu'il y ait que uniquement ces deux ingrédients dans l'étiquette. Et déjà, essayer que le moût de raisin soit placé en premier et en deuxième, le vinaigre de vin, ça veut dire qu'il y en a plus en quantité.
Donc, on oublie les conservateurs, etc. Une indication en IGP, Invecchiato, qui est la marque d'un vinaigre de qualité IGP.
Oui, on n'en trouve pas beaucoup d'ailleurs, malgré l'énorme production d'IGP. C'est ce qu'il faut éventuellement aller chercher, parce que ça veut dire que le vinaigre, il a vieilli minimum 3 ans dans du bois.
Mais question triviale, Alessandra. Est-ce que le prix peut être un marqueur indicatif avéré d'une qualité supposée ?
Pas toujours. On a vu des produits très chers et qui n'étaient pas vraiment des très bons produits, pas de très bonne qualité. Donc malheureusement, ce n'est pas toujours. Quand c'est bien fait, la matière première est chère, donc c'est bien sûr un petit peu plus cher que certains produits industriels, mais ce n'est pas une vérité absolue.
On va passer à la dégustation dans un instant et vous allez nous indiquer d'ailleurs des vinaigres balsamiques IGP à prix tout à fait accessible et d'une qualité plus qu'honnête avec même des arômes tout à fait intéressants. Mais on fait une petite pause dans nos verres.
On va déguster sur France Inter.
Dominique Hutin s'italianise à grands pas et à grandes gorgées.
Oui, je voudrais vous le dire en italien, mais je ne sais pas le faire. Je vais vous faire l'économie de cette chose-là. Mais en tout cas, non, c'est intéressant parce que ce que vient de dire Alessandra entre totalement en résonance avec ce que moi, je vais essayer de dérouler en parlant du Lambrusco. On a vraiment des choses à plusieurs vitesses. Alors, d'autant plus que le vinaigre, étymologiquement, porte en lui l'idée du vin. Vin, vinaigre, vous voyez, les deux. Effectivement, alors évidemment, entre ces deux états, vin et vinaigre, il y a un petit dérapage. Nous, on a parlé avec Alessandra d'artisans, de produits nobles, élaborés lentement, etc. Et quand on parle de vinaigre avec un vigneron, évidemment, là, on évoque plutôt une terminaison mortifère de l'idée d'un vin. Ben, un vin qui n'en sera jamais, quoi, finalement, du vin, à cause de ce petit dérapage, ce problème bactériologique qui nous fait glisser avec des acidités... Oui, c'est l'off maillot tout à l'heure, l'acidité volatile. Alors, cette acidité volatile... On la tolère, mais lorsqu'il y en a trop, évidemment, ça fait sortir le vin du champ du vin. Il bascule, il n'est plus considéré comme étant loyal et marchand. Et tout ça illustré à merveille par un pan de l'histoire gastronomique française. Je vais vous poser une devinette. Savez-vous pourquoi est-ce que les vinaigreries en France sont historiquement établies à Orléans ? Petit blanc que je savoure.
Pour des questions de transport, non ?
Bravo.
Le fleuve.
Voilà pourquoi le chef est chef. Voyez, en direct. Exactement. Les voies de commerce étant des fleuves, les bateaux stoppaient à Orléans. Ouais. On examinait l'intérieur des tonneaux. Et c'est ceux qui étaient touchés par la piqûre acétique, ben pour eux, ça signifiait la fin du voyage. Et changer de parcours, ils étaient invités à continuer leur route de vinaigre. Alors aujourd'hui, pour le quotidien du vigneron, évidemment, ça continue à être un combat permanent. Il y a des normes, voilà. Quand même, ce que je vous propose, c'est d'éloigner le spectre du vinaigre avec une antidote, la jubilation du Lambrusco, qui entretient une vraie proximité donc avec les vinaigres dont on parlait, notamment en termes géographiques. En France, alors ils sont distribués, là aussi, en plusieurs versions. On connaît les Amabile, qui sont des demi-secs, les Dolce, qui sont plutôt des doux. Et moi, je vais vous parler de ceux qui sont réellement les traditionnels, qui sont les Secco, qu'on peut traduire assez facilement, chef, puisque vous êtes fort.
En sec.
Bien.
Bravo. Merci.
Donc, ce Lambrusco authentique, j'en ai servi plusieurs. Alors, vous en avez... d'ailleurs, Alessandra a amené les siens aussi. On a fait une petite sélection ensemble. Le premier, c'est Bertolani. C'est celui qui vous est distribué dans les verres. Il s'appelle Rosso All'Antica. C'est un secco, comme promis. C'est 12 degrés. Un nez intense. C'est brodé de touches noires, un peu cendré. Vous avez même le droit de trouver des notes de chocolat en poudre. Et c'est un vin qui est assez libre, sans attirail œnologique. Ça, c'est relativement intéressant, c'est assez classieux. Et ça se trouve sur Internet, chez Gusto d'Italia, un prix d'ami de 8,95 €. Ah, ça, c'est assez formidable.
Bonne acidité, là.
Belle acidité, c'est frais. C'est assez noir, vous voyez, parce qu'il faut dire que le spectre de couleur de Lambrusco, ça va vraiment du rosé très diaphane, quelque chose d'un peu dilué pour dire les choses vraiment, jusqu'au vin noir presque opaque. Donc là, je vous ai servi évidemment des versions assez intenses qui ne se traduisent pas forcément par des prix très très élevés. Un autre, Falconero Zero, c'est Terraquilla qui fait ça, 12 degrés lui aussi. Là aussi, un vin sans farce, sans concession. C'est un peu l'antithèse du vin de séduction facile que l'on connaît en France, qui sont plutôt d'ordinaire un petit peu sucrailloux. Voilà. Là, c'est plutôt structuré. C'est assez intéressant. Chez Rincavis, ça vaut un peu plus cher, 18-19 euros. Et on peut même le tenter, à mon sens, avec une viande rouge grillée. On a vraiment quelque chose, même de l'ordre du tannique. Voilà. Alors, je vous ai dit un petit peu, j'ai balisé un petit peu les choses. Le Secco, donc 12 degrés. L'Amabilé, c'est 8 degrés, simplement parce qu'on va stopper la fermentation du sucre naturel et on va le bloquer. Donc, il nous reste des sucres dits résiduels. C'est ce qui donne son caractère un petit peu arrondi. Malheureusement, ce qu'on trouve en France, c'est souvent pensé industriellement et donc ça se traduit par des vins qui sont plutôt, je vais le dire trivialement, mais élavas et sucrailloux, souvent avec des bulles qui relèvent plutôt du foisonnement, alors que là, vous avez pu le sentir, c'est plutôt un titillement, c'est plutôt l'évocation d'une bulle. C'est une petite dentelle, c'est quelque chose de caressant. Enfin bon, on est sur un autre registre. Donc voilà un petit peu la définition qu'en donne le marché français. Ces vins un petit peu lourds, on est vraiment loin du Lambrusco véritable. C'est un peu comme si vous vouliez, pour découvrir le camembert, vous alliez en Laponie. C'est aussi, aussi décalé. Voilà. Alors, il y a une autre définition qui pourrait être celle donnée en Italie, du vrai. C'est donné par un dictionnaire qui s'appelle Zingarelli. Je pense que ça va vous parler, oui. Alessandra. C'est un peu Larousse, comme un petit Robert. Voilà. Et qui nous dit que c'est un vin d'Émilie, rouge vif, pétillant, tiré du cépage du même nom. Et c'est un peu court, jeune homme. Pourquoi? Eh oui, il y a beaucoup plus de nuances. Alors, comment est-ce qu'on dit des Lambrusco?
Lambrusco, en pluriel, c'est ça, oui. En plus, il y a différentes variétés de Lambrusco.
On va tout finir bilingue ici. Hein.
Et donc, effectivement, on trouve plusieurs appellations, plusieurs cépages que je ne vais pas énumérer ici, essentiellement, normalement, appuyés quand même sur des raisins autochtones. C'est ce qui nous rapproche de ce que vous avez déroulé à propos des origines des raisins qui se prêtent à la production de vinaigre. Et alors, tout ça, en fait, lorsque je me suis rapproché d'une importatrice, elle m'a dit, mais notre Lambrusco, il est un peu comme votre cidre à vous. Alors, évidemment, elle ne savait pas à qui elle parlait. Un bon normand, tout de suite, j'ai compris.
Monsieur Cidre en France, en plus.
Et voilà. Et tout ça atteste qu'il s'agit, lorsqu'on parle de ce Lambrusco antique, d'une boisson d'extraction paysanne. Et on le trouve vraiment dans les fins fonds des siècles. C'est ce qu'atteste sur un chant ancien. Je vais vous le chanter. Je vous demande un peu d'indulgence parce que je ne suis pas chanteur. Enfin, ça, vous allez vous voir relativement rapidement.
Je crains le pire.
Je donne mon cœur à l'Italie. Qu'on en fasse des gnocchi, et matignasse tifozzi, faites-en des spaghettis, je lègue mon foie à la mama, qu'elle farcisse de mozza, et mes oreilles à la madone, qu'elle transforme en mascarpone, je voulais choisir pour mon zizi, allez hop, en salami, mais pour le vin, je veux le meilleur, à col de Lambrusco en ton honneur.
Il va falloir freiner sur Lambrusco, surtout Dominique Hutin.
Malheureusement, l'histoire n'a pas retenu le nom de l'auteur. C'est un peu dommage. Voilà. Alors quand même, en conclusion, on a un petit peu travaillé. Nous n'avons pas fait que rire. D'abord, on peut penser que ce Lambrusco pourrait dégommer certains Spritz. Qu'on trouve souvent une version un petit peu industrielle. Mm-hmm. Et ça s'y prête assez bien. Et puisque vous avez été sage et que vous avez survécu à ce chant traditionnel, vous allez sur notre page. Vous téléchargez mon carnet de vigne, 15 Lambrusco qui sont parmi les meilleurs de ce que l'on fait en France. Tout ça est entièrement gratuit. Vous pourrez même le lire, l'imprimer, etc., etc. J'ai adjoint les coups de cœur d'Alessandra qui sont autant d'invitations à se perdre dans la plaine du pot, ou plutôt la plaine du pot de vin, bien sûr.
Oh, gros boulot de Dominique Hutin, effectivement, qui vous a sélectionné. Ça tombe bien, c'est une boisson idéale pour l'été, très désaltérante, rafraîchissante. 15 cuvées avec les coups de cœur également d'Alessandra Pierini. Dans un instant, Alessandra Pierini fait un tour de magie avec un œuf. C'est pour ça qu'on a gardé Clément Chicard en plateau, notre champion du monde de l'œuf mayonnaise 2019. Oui, œuf, vinaigre balsamique, ça peut marcher. Vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Plein de questions aussi d'auditeurs, évidemment, puisque le vinaigre balsamique connaît un succès fou en France. C'est juste après Asaf Avidan, Lost Horse, sur France Inter.
Undulating back and forth, but it's too late. And there's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps, your little feet. And silver boots make well known.
It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love.
Quello che cambia soprattutto man mano che si va su con l'invecchiamento è chiaramente
il medutant coulé, celui-ci.
Celui-ci, medutant coulé, c'est l'étiquette or, donc c'est le plus vieux qu'on peut commercialiser en traditionnel.
Però è soprattutto anche un discorso di persistenza, anche gusto olfattiva, se uno ci fa caso.
La couleur aussi, on le voit, il est encore plus foncé.
La persistenza, diciamo, s'allunga.
On va goûter.
Acqua.
Quindi appunto la, qua la, la, la complessità è data, a parte che si vede anche
c'est quand même incroyable qu'avec une infime quantité de produits on arrive à voir autant de persistance. La bouche est vraiment pleine d'arômes et on n'a pas envie de manger autre chose, on n'a surtout pas envie de boire de l'eau pour garder ces parfums aussi délicats, suaves, doux, sucrés, mélangés, un peu acidulés. On sent la complexité de produit, sa persistance et sa viscosité. On comprend pourquoi il est balsamique, pourquoi il est aussi rare.
Quand Alessandra Pierini goûte les plus vieux vinaigres balsamiques de l'Acetaia à San Giacomo à Novellara.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Il y a beaucoup de questions d'auditeurs qui nous disent « Mais attendez, le vinaigre balsamique, personne n'a les moyens d'acheter une petite fiole à 50 euros parce qu'il a vieilli 20 ans. » Vous avez la preuve, et je crois même que vous avez une facture d'un vinaigre balsamique tout à fait honnête avec lequel on peut par exemple travailler.
C'est ça. J'ai acheté chez Naturalia, au prix de 7,30 euros, un vinaigre balsamique de Modène IGP vieilli et bio pour 250 millilitres. Donc je pense que c'est un prix très correct pour l'avoir goûté. Il est très honnête.
Et au-delà du bio, comme il y a à boire et à manger dans cette fameuse indication géographique protégée, le repère pour détecter un vinaigre de qualité, là on regarde l'étiquette.
Donc on regarde tout de suite l'étiquette. On essaye vraiment de voir qu'il y ait uniquement deux ingrédients, le moût de raisin et le vinaigre de vin. Moût de raisin en premier de préférence, suivi par le vinaigre de vin qui doit être à une quantité mineure. Et surtout, s'il y a écrit l'appellation Invecchiato, ça veut dire que c'est uniquement les vinaigres IGP qui peuvent rester dans le bois minimum 3 ans.
Et là, c'est le cas.
Et là, c'est le cas.
D'accord,
c'est bien
donc
ce
on oublie
marqué,
évidemment les gros mots sur les étiquettes. On oublie le caramel, les conservateurs,
c'est ça,
le E215.
Tous les additifs.
Qui fait des ravages dans les vinaigres balsamiques. En un mot, Dominique.
N'oublions pas de dire que la concentration de ces produits-là est telle qu'on utilise des gouttes, vraiment des choses dans les recettes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît, nous, pour faire des vinaigrettes, des choses de cette
Alors celui-ci, vu le prix, on peut s'autoriser à une utilisation un peu plus massive, entre guillemets, et notamment pour transformer des œufs de poule. Incroyable. Expliquez-nous
c'est
ce tour de magie,
fait.
Vous les avez intitulés.
C'est très simple, ils sont juste là. Ce sont des œufs qui ont une couleur marron un peu brillante.
Comment vous avez baptisé?
Total Black.
Total Black, c'est dans le livre Le vinaigre balsamique, 10 façons de le préparer d'Alessandra Pierini aux éditions de l'Épure. La recette sur franceinter.fr, à la page on va déguster, eh bien ils portent bien leur nom, ils sont tout noirs.
Ça, comment plus on les garde, on peut même les garder bien, c'est un œuf dur qu'on écaille et qu'on met tout simplement une fois refroidi dans du vinaigre balsamique. Une certaine quantité.
Ensuite,
vinaigre balsamique IGP, classique. Hein. On ne va pas chercher quelque chose de très aromatique. Il faut que ça soit absolument recouvert.
On le laisse minimum 24 heures pour que les œufs soient bien foncés. On peut le laisser davantage. Le vinaigre va davantage durcir les œufs. Vous allez voir, la consistance est assez incroyable. On sent une certaine acidité. On peut les garder une très bonne semaine. Plus on les garde, plus ils deviennent foncés. C'est joli à la vue et c'est aussi très très bon au goût.
On a gardé Clément Chicard, monsieur œuf mayonnaise, pour lui faire cette surprise. Alors, vous avez un œuf tout noir.
Ouais.
Alors, il est déjà écalé, hein,
la châtaigne. Ouais, j'ai bien vu. Ouais.
C'est pas une poule d'une race particulière qui pond des œufs noirs. Là, il est déjà écalé, c'est un œuf dur tout entier. Croquez-le comme ça. Réaction.
C'est bon. Ça donne un petit goût sucré, du coup.
Il faut dire que le ratio jaune-œuf est tout à fait surprenant.
Ah oui, parce que le vinaigre boit, en quelque sorte, rentre dans le blanc d'œuf et arrive petit à petit au cœur, donc au jaune. Et c'est assez incroyable.
Qui prend toute la place.
Oui. C'est incroyable.
Ah oui, c'est incroyable. Ça fait une réaction chimique, en fait.
Alors, le minimum de temps trempé.
Minimum 24 heures pour qu'ils soient bien foncés, parce que c'est comme ça qu'ils sont rigolos. Mais on peut les laisser dans le frigo, les garder même une bonne semaine pour les utiliser au fur et à mesure. Et ensuite, très important,
il a sorti sa poche à douille de mayonnaise et rajoute de la mayo.
Ah là, ça doit être bon, ça.
Là, ça va être génial.
C'est excellent. Moi, je sens là que ça va être réutilisé.
Et réutilisé justement.
Et réutiliser le balsamique surtout pour faire d'autres préparations. Il n'est pas cuit, il est prêt à être réutilisé.
Et ça vous dit un mariage mixte France-Italie, on parlait de mayonnaise dans un instant. Il est possible. On a d'ailleurs goûté ça dans la trattoria de Massimo Bottura
à Modène.
Une mayonnaise au vinaigre balsamique.
Ben oui, que nous avons ici, à côté des œufs noirs, une mayonnaise toute noire, en fait, et bien brillante. C'est une mayonnaise, bien sûr, il faut d'ailleurs. On monte une mayonnaise tout simplement. Moi, j'ai mis de l'huile de colza. Il faut que ça soit une huile assez neutre, dans laquelle on mélange ensuite du vinaigre balsamique, probablement celui avec lequel qu'on a utilisé pour noircir les œufs. On va réduire tout simplement sur le feu pour qu'il soit bien sirupeux.
Elle est incroyable, cette mayonnaise.
Et on l'incorpore à la mayonnaise. Elle a une belle consistance.
Alors il risque d'être un peu plus méchant, notre chef.
Je crains, mais c'est autre chose.
Non, je dis qu'elle était, je lui dis avant qu'elle était très jolie. Elle a une belle couleur, bien brillante.
C'est génial. Avec l'agrodolce et les notes agrodolce.
Sucré salé, en plus, c'est très cool, hein, je trouve.
Bonne idée.
Ouais, c'est très bien.
C'est beaucoup plus fluide. Pas en consistance, parce que ça se tient extrêmement bien, mais c'est filant dans la bouche, ça se répand. Elle est tout à fait fondante.
Ah,
c'est
vraiment un autre rapport
qui est beaucoup moins huileux.
C'est incroyable.
Ah bah oui.
C'est très bon.
Le vinaigre, en fait, il y a aussi un tout petit peu de vinaigre de vin pour remonter un petit peu l'acidité, puisqu'on a réduit le balsamique, donc on garde beaucoup plus les sucres. Et en fait, ça...
Il y a ce rapport sucré qui fait penser à des oignons, des échalotes confits, à la
exactement.
Table. Et c'est l'acidité qui vient nettoyer et donner la fraîcheur.
Je pense à un confit d'échalote ou un confit d'oignon.
D'ailleurs, le confit d'échalote au vinaigre balsamique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que je vous conseille absolument de faire. Hein. Avec les petits oignons maintenant de saison, on le met sur le feu avec un tout petit peu d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. On laisse réduire à petit feu, un tout petit peu de poivre, de la ciboulette. Et après, on déguste comme ça. On peut même le garder en conserve quelque temps.
Pas mal de questions d'auditeurs, Esther El Payani, notamment sur l'adjectif balsamique.
Bah oui, la question qui revient le plus souvent, c'est pas parce qu'il y a écrit balsamique sur l'étiquette que c'est donc du vrai vinaigre balsamique. Donc, quels sont les vrais mots à repérer sur l'étiquette pour être sûr de ce qu'on achète?
Même si on peut avoir de très bons vinaigres balsamiques non italiens.
Oui, j'en ai goûté certains.
Alors là, vous avez une cuillère avec un élixir. Vous allez le goûter, nous donner votre avis.
On y va.
On ne révèle pas son identité.
La consistance est un peu différente.
C'est plus fluide.
Alors ?
C'est plus fluide.
Petit goût de figue.
Beaucoup d'acidité aussi. Je vais risquer de
tousser. C'est Dominique Hutin qui a la bouteille en main.
Oui,
c'est ça. On tousse, c'est ça.
Bon, il y a du sucre qui arrive à la fin.
C'est un vinaigre balsamique du Languedoc, de la maison Grand Nota, qui font un très bon travail. Ils sont dans l'Aude. Laurent Faure est le maître vinaigrier. Et ce vinaigre a vieilli entre 3 et 5 ans, sans ajout de colorant évidemment, sans conservateur ni sulfite. C'est un produit entièrement naturel, avec des moûts de raisin du Languedoc. Intéressant quand même.
D'accord. Ah oui, c'est très intéressant. On peut sûrement faire du vinaigre basique. J'imagine qu'il y a du vinaigre de vin dedans aussi. Il y a moût de raisin et vinaigre de vin.
Il y a aussi du vinaigre
de vin. Donc c'est celui qui ressemble un peu au vinaigre balsamique IGP italien.
Moût de raisin cuit et concentré, vinaigre de vin. Et voilà.
Donc balsamique, en fait, si on veut vraiment un italien, c'est balsamique de Modène IGP. ou Tradizionale
di Modena ou di Reggio Emilia AOP.
C'est ça.
C'est marqué DOP en italien sur les emballages.
Et bref, jamais balsamique tout seul.
Balsamique tout seul, c'est encore autre chose. On peut l'utiliser malheureusement et la communauté européenne est en train de débattre sur ça. On va voir le résultat dans quelques jours. Et ce n'est absolument pas un vinaigre balsamique. C'est un condiment, c'est tout à fait autre chose qui ressemble de loin et qui a une palette organoleptique aigre douce. Mais c'est vraiment un fourre-tout dans lequel il y a énormément de choses. Il peut y avoir des additifs, des colorants. Il n'y a pas, absolument pas de cahier de charge.
Goûtons, on en vous avait promis cette dégustation, les fameux vinaigres dont on a assisté à la fabrication, Andrea Bezzecchi, on est en Émilie-Romagne, un vinaigre balsamique traditionnel de quel âge? Et là c'est Clément Chicard qui le goûte.
C'est à partir de 25 ans d'âge, donc c'est l'or.
Ça fait 25 ans qu'il patiente.
Voilà. Ah, il est très bon, pas du tout acide et tout, il est vraiment bon.
Et c'est vrai que ça a une palette
organoleptique très intéressante. Il y a un peu ce goût sucré, mais qui n'est pas donné absolument uniquement par la réduction donc de l'évaporation de l'eau et la concentration en sucre, mais c'est surtout pour la viscosité, ce qui fait une concentration de saveur avec beaucoup moins de sucre. D'ailleurs, si on fait évaporer du vinaigre balsamique lambda, même IGP, et il reste un petit peu des granules au fond, c'est vraiment le sucre qui reste. Si on fait évaporer du vinaigre balsamique, il sèche, mais il n'y a pas de particules.
Il ne faut pas réduire les bons vinaigres balsamiques au simple équilibre entre l'acidité et le sucre. Il y a toute une palette aromatique qui tire vers les fruits cuits, le pruneau, parfois le cuir.
L'abricot confit, les fruits cuits, le cuir, le tabac, surtout la vanille, l'épice. Tout dépend aussi de
la noix.
L'essence de bois aussi qui est utilisée dans la fabrication. Ça, c'est le maître vinaigrier qui intervient et qui donne un petit peu sa palette aromatique.
Oubliez ce que vous connaissez du vinaigre.
Ah, oui. Qu'est-ce que vous répondez aux nombreux auditeurs qui trouvent que ces vinaigres balsamiques sont inaccessibles et très chers, justement?
Disons, sont très chers,
ça, c'est
d'accord,
c'est le cas.
Objectivement, mais une petite bouteille de 100 ml, on peut la garder des années. Juste, il faut bien la reboucher et la refermer dans un placard de cuisine. Ça se garde très longtemps. On utilise une goutte. C'est suffisant, il ne faut surtout pas en mettre davantage, on ne l'aimerait pas et ce n'est pas pour ça que ça sera meilleur.
Très bien, même si, et puis on voit d'ailleurs que les artisans du vinaigre balsamique, ce ne sont pas des gens qui roulent en Maserati, etc. Ils font un travail d'artisan et de paysan.
Ils sont obligés de faire autre chose, ils ne peuvent pas vivre uniquement de la production du vinaigre balsamique traditionnel, ils sont obligés d'avoir une autre activité pour survivre.
Du vinaigre, il en est encore question avec Esterelle Payani.
On va déguster sur France Inter.
Esterelle Payani, boisson au vinaigre.
Posca, shrub, c'est kanjabine. Switchel, non, c'est pas une formule magique pour transformer le faux balsamique en vrai. Mais tous ces noms ont donc un point commun. Vous avez deviné lequel?
Ils sont tous difficiles à prononcer, c'est ça?
Ouais, en fait, je m'entraîne tous les matins avec des pois chichos dans la bouche, une méthode éprouvée à Marseille. Non, évidemment, comme on l'a dit, ce sont des boissons à base de vinaigre, mais que l'on retrouve à différents coins du monde.
C'est un peu fort de vinaigrette, ça, quand même, et on boit ça cul-sac?
Alors, on se calme, on va pas descendre des bouteilles de vinaigre dès le petit-déj, mais justement, c'est la mode des boissons détox qui m'a amené sur cette piste. Mm-hmm. Vous savez, comme on dit parfois de faire des cures de jus de citron matinal, on a eu récemment une mode recommandant de s'enfiler quelques cuillerées de vinaigre de cidre diluées dans de l'eau au réveil. Alors j'ai essayé, et au saut du lit, en effet il me faut un saut, mais pour vomir, parce que c'est très détox, mais merci. Certainement pas pour ma pomme.
La vie d'Esterelle Payani.
Je teste tout, c'est un métier où on fait corps avec son métier. En cherchant comment améliorer ce breuvage, je suis donc tombée sur le Switchel.
Vous êtes tombée sur le Switchel, vous n'êtes pas fait trop mal?
Oui, en fait, le Switchel, c'est pas le popotin en base écossais du sud-ouest, c'est une boisson originaire des Caraïbes qui a fait son nid aux États-Unis dès le XVIIe siècle. Elle était consommée l'été, notamment après les travaux des champs, et c'est une boisson à laquelle on prête des vertus revigorantes, parce qu'elle contient du gingembre, du vinaigre de cidre, ça va plaire à Dominique Hutin, du miel, du sirop d'érable, un peu de citron, une sorte de super limonade ou de soda pour pionnier, parce qu'on en parle même dans la petite maison dans la prairie.
Non, c'est vrai, Laura Ingalls boit du
Switchel.
Switchel, faut pas être dyslexique.
Oui, alors Laura Ingalls en bois, mais aussi les soldats romains.
Ah bon ?
Oui, je me permets de vous rappeler que la boisson ordinaire des armées romaines était simplement du vinaigre dilué dans de l'eau boisson qu'on appelait la Posca. D'ailleurs, quand au moment de la crucifixion, on lit que l'on approche des lèvres de Jésus une éponge imbibée de vinaigre, il faut y voir une trace de cette boisson des altérances plutôt qu'un ajout de souffrance.
Les boissons au vinaigre, donc ça traverse les goûts et les époques, et vous nous emmenez où avec cette drôle de mixture que vous êtes en train de nous verser? La joie, oh là là, il y a carrément une feuille de menthe, du concombre râpé dans nos verres, dans nos petits gobelets en carton.
Attention, voyage express garanti, on met le cap sur l'Iran. Je vous ai préparé un sekanjabin, un sirop de sucre où l'on fait mijoter du vinaigre blanc et infuser de la menthe.
C'est délicieux.
Ça se sert bien frais avec du concombre râpé dedans. Bon, alors, je vous ai mis la recette sur le site, bien détaillée. Non dilué, on en fait aussi un plat de ce sirop dans lequel on trempe des feuilles de romaine, un plat salé sucré. On trouve même ce sekanjabin dans un traité médical du XIIe siècle, dans la catégorie des charbats. Charbat, ça signifie tout simplement boisson. Et ça va vous faire penser au...
Le sherbet sorbet.
Le sherbet turc. Et voilà, chez nous, ça a donné sorbet. Mais en anglais, ça a encore donné autre chose.
Shrub.
Exactement.
Alors, shrub, on n'en a pas souvent entendu parler quand même.
Alors, S-H-R-U-B, tout simplement, c'est une boisson aux fruits et encore au vinaigre. À l'origine, c'est un pickle sucré, une façon de conserver les fruits plus longtemps. Et ça se déguste aussi dilué à l'eau ou dans les cocktails. Et ça se fait avec tous les vinaigres, de préférence non pasteurisés. Vous allez voir, au lieu de faire des confitures hier soir, je vous en ai préparé. Ça va changer. Je vous ai fait deux petites mixtures. Abricot, vinaigre de Savagnin, fraise et vinaigre de cidre.
C'est beaucoup. Alors, faites passer à votre voisine de gauche,
oui,
Alessandra Pierini.
Il faut faire naître
alors là,
le cocktail
on parle
en
du
même
shrub.
Temps.
Juste, on va commencer par une recette. C'est, vous dites...
Le shrub à l'abricot. Alors, le shrub à l'abricot. Comment on fait un shrub? On coupe des fruits bien mûrs en morceaux. En gros, vous comptez pour 180 g d'abricots ou de fraises, 70 g de sucre. Vous coupez tout en morceaux, il faut que ce soit bien mûr. Vous les enrobez de sucre et vous les oubliez au frigo. 2 jours. Alors ça, c'est une méthode qui est testée par les mixologistes. D'habitude, ça se faisait en faisant chauffer pour faire un sirop plus rapide.
Mixologiste, la mode du cocktail.
Tout à fait. Mais en fait, quand on le fait infuser à froid, on garde beaucoup plus les arômes du fruit, c'est beaucoup plus marqué. Et surtout, bon, ça prend du temps, mais ça gagne du goût. Une fois que vous avez fait cette préparation, vous la filtrez dans un tamis et vous appuyez bien bien fort pour retirer toute la pulpe. Vous ajoutez à ce moment-là 75 ml de vinaigre de votre choix. Donc là, abricot, j'ai mis du vinaigre de Savagnin, fraise, du vinaigre de cidre.
C'est rafraîchissant.
Et vous oubliez ça dans une petite bouteille au frigo et vous pouvez vous faire des cocktails sans sucre presque tout l'été.
C'est magnifique. C'est
moi, je vous dis, l'été sera chaud, l'été sera shrub.
Bravo. Moi, j'aime beaucoup le sekanjabin, c'est ça, avec la feuille de menthe et le concombre râpé.
Oui, tout à fait.
Sekanjabin, shrub, recette d'Esther El Payani sur franceinter.fr à la page On va déguster. On est dans les fruits, on y reste avec une dernière recette pour se quitter, Alessandra Pierini. C'est une compotée de fraises au vinaigre balsamique. On l'a dit, ça va très bien avec le parmesan, mais ça va aussi très bien avec les fruits.
Très bien avec les fruits, surtout les fraises, les fruits rouges. Mais c'est très, très bien aussi avec le chocolat. Mais cette compotée, c'est vraiment de saison. On prend 500 grammes de fraises, 180 grammes de sucre, une cuillère de baie rose, du zeste de citron râpé, 50 ml de vinaigre balsamique. On fait cuire tout ça 30 minutes et on le met en conserve. On le consomme avec de la ricotta fraîche, des fromages.
Vous l'avez là?
Oui, 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 bon, juste là sur le côté.
Alors on va faire tourner très bien la compotée de fraises au vinaigre balsamique à retrouver dans le vinaigre balsamique, 10 façons de le préparer, Alessandra Pierini aux éditions de l'Épure. Un grand merci, Alessandra. Demain, on part en rando dans le massif de Belledonne, près de Grenoble. On va faire le plein de recettes nomades et de conseils nutrition avec les cuisinières et marcheuses Cléa et Linda Louis pour bien manger et s'alimenter en randonnée. À demain, si vous avez encore faim.